Et donc, dans l'univers, il existe un phénomène connu sous le nom de globule de Bok. Globule de Bok, ça me dit rien, n'est-ce pas? Un nuage dense de poussière et de gaz où naissent les étoiles. Vous avez déjà vu une étoile naître? Intéressant, hein? C'est amas de matière interstellaire qui pèse généralement, pour les astronomes, entre 10 et 50 fois la masse du Soleil, peuvent amorcer le processus de formation d'étoiles en leur sein. Donc ces globules sont des berceaux pour les étoiles. Intéressant. Ils se trouvent dans les régions qui contiennent de l'hydrogène, du carbone et de l'hélium, et des poussières silicatées. Les globules de Bok sont sombres et absorbent toute la lumière visible, jusqu'au point que, dans le passé, on pensait, en regardant le ciel, qu'il y avait des trous dans l'univers. Mais finalement, ils ont déterminé que c'était des nébules, des globules comme ça, des nuages de poussière qui bloquaient en fait les étoiles derrière eux. Intéressant, hein? On découvre des choses des fois. Mais les globules de Bok sont sombres et absorbent toute la lumière visible. Donc c'est un trompe-œil d'une certaine façon si on ne sait pas ce qu'on regarde. À première vue, ils semblent insignificatifs, cachant la naissance d'étoiles dans leur profondeur. Mais peut-être qu'aux yeux de Dieu, ces vastes globules, je vous propose, dont la taille est difficile à apprendre pour nous, sont comme des minuscules morceaux de poussière. Pour quelqu'un qui peut contempler tout l'univers, qui a la vue de toute la création, peut-être il voit toutes ces masses comme des petites poussières. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, frères et sœurs? Nous sommes, dans une façon, de la poussière, n'est-ce pas? Fragile, temporaire, très petit vis-à-vis du soleil, vis-à-vis de notre système solaire, vis-à-vis de notre galaxie, vis-à-vis de l'univers. Nous sommes tellement petits, n'est-ce pas? Mais Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, chaque petite poussière, chaque petite personne qui n'est pas vraiment petite aux yeux de Dieu, parce que nous sommes considérés ses enfants. Il y a toujours eu un plan pour notre transformation. Une façon de le dire, c'est une transformation de la poussière à la gloire. Et nous en avons discuté récemment dans un sermon. Mais dans l'univers, l'exemple le plus profond de la poussière, peut-être, vient de Jésus-Christ lui-même. Considérons Philippiens 2. Philippiens 2. Le Créateur de toutes choses a choisi de s'humilier en devenant figurativement de la poussière. Il a mis de côté sa gloire divine. Et il a volontairement pris une forme humaine pour vivre parmi nous. Philippiens 2 nous donne quand même une idée de ce choix définitif, ce choix vraiment pas par accident, pas par hasard. Il n'était pas forcé, mais un choix libre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Philippiens 2, Paul le décrit comme ceci, pour essayer de nous donner un modèle de l'humilité. Un modèle d'humilité pour nous, les membres de l'Église. Philippiens 2 et le verset 7. Commençons à lire au verset 7. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'était son choix, n'est-ce pas? C'est très clair. Jean 1, verset 14, une référence importante, comme nous considérons lors de la préparation pour la Pâque, celui qui a donné sa vie pour nous, il serait quand même recommandé d'étudier Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Très important. Mais sautons quelques versets pour vraiment nous focaliser sur le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Venu du Père. C'est quelque chose qu'il a choisi. Ce n'était pas mis sur ses épaules. Il n'était pas forcé. Il a accepté d'être de la poussière, dans un sens, n'est-ce pas? De naître et de marcher parmi nous sous une forme, je dirais, faible. Faible vis-à-vis de sa gloire. Et pourtant, maintenant, il est ressuscité des morts. Après 3 jours et 3 nuits, dans le cercueil, il est ressuscité, glorifié et rétabli à la place qui lui revient à la droite du Père. Donc, considérons maintenant Romains chapitre 6. S'il sert comme modèle pour nous, Paul voudrait que nous contemplions ce modèle aussi. Pourquoi 3 jours et 3 nuits? Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Lors de la préparation pour la Pâque et pour la fête des pains sans levain, frères et sœurs, nous sommes censés de poser cette question. Est-ce que je marche toujours en nouveauté de vie? Est-ce que je marche toujours en nouveauté de vie? Ce n'est pas quelque chose qui est censé de durer quelques jours. C'est censé d'être renouvelé en nous à chaque fois que nous nous sentons un petit peu, je dirais, distraits, éloignés, découragés. On peut se poser cette question. Est-ce que je marche en nouveauté de vie? Est-ce que j'apprécie le sacrifice qui a été fait pour moi? Et est-ce que je me souviens de mon baptême, de mon engagement envers Dieu? Est-ce que je suis en train de marcher en nouveauté de vie? Voilà l'exemple. Ce n'est pas la gloire pour nous, pas encore, mais c'est par la gloire du Père que nous avons cette possibilité de marcher en nouveauté de vie. C'est par le don de l'Esprit de Dieu aussi que nous avons cette possibilité de marcher en nouveauté de vie, c'est par le pardon de Dieu que nous avons cette possibilité d'être purs, d'être purifiés de nos péchés. Et j'insiste sur le symbole de 3 jours et 3 nuits. Matthieu 12, verset 40. C'est un signe, frères et sœurs, c'est un signe, mais c'est aussi pour nous de se souvenir de notre engagement personnel envers Dieu. Il nous a montré le chemin, c'est ce que nous venons de chanter, n'est-ce pas? Il nous a montré le chemin. C'est quoi le chemin? C'est que lui, il est mort pour nous, et nous devons aussi mourir vis-à-vis de la voie du péché, n'est-ce pas? C'est le chemin. C'est de mourir vis-à-vis de ce monde. C'est de mourir vis-à-vis du péché et c'est de vivre en nouveauté de vie, de marcher en nouveauté de vie, autrement dit. Matthieu 12, verset 40. Matthieu 12, verset 40. Je coupe un petit peu. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Intéressant. C'était quoi ça? C'était la réponse à quelque chose, une question assez importante sur la véracité de son évangile, sur la véracité de sa personne. Qu'est-ce qu'il a répondu aux scribes, aux pharisiens? C'était « Ce miracle confirme le tout. » Ce miracle, ça confirme le miracle, l'ouverture d'une voie pour l'homme de vivre différemment et pour aussi obtenir accès à la vie éternelle. Par sa résurrection, le Christ a vaincu la mort. Il a prouvé qu'à partir de la poussière, Dieu est capable d'opérer une transformation à la gloire. La prémisse des prémices, n'est-ce pas? Le premier des prémices. Et nous avons l'honneur, frères et sœurs, d'être considérés des prémices en préparation, si nous marchons en nouveauté de vie. Mais il faut vaincre le péché aussi, non seulement la mort, mais il faut aussi vaincre le péché. Et le levain des pharisiens, le levain des scribes, le levain des faux doctrines, qui sont orgueilleux, ont besoin d'être éliminés. Ils ne peuvent pas coexister avec cette gloire. Ils ne peuvent pas coexister avec ce cheminement. Le péché à la base est défini dans les Écritures comme la transgression de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est quoi la pénalité de la transgression de la loi de Dieu? C'est la mort. C'est la mort. Considérons 1 Jean 3. 1 Jean 3. À partir du verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Des fois, on se concentre sur la définition du péché ici, mais je trouve intéressant, comme on est déjà là, de considérer celui qui pratique le péché transgresse la loi. Qu'est-ce que nous pratiquons? Qu'est-ce que nous pratiquons, frères et sœurs? Est-ce que nous pratiquons la justice en marchant en nouveauté de vie? C'est ça que nous sommes censés de pratiquer, de ne pas imiter le monde, de ne pas pratiquer la voie du monde, mais d'abandonner ces choses et d'accrocher à l'exemple ultime de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le péché n'est pas une simple erreur. Le péché n'est pas un faux pas, mais c'est une violation des commandements de Dieu. Lorsque nous choisissons, lorsque les gens choisissent de vivre en désobéissance à la loi de Dieu, ils rompent la communion avec Dieu. La Bible nous enseigne que tous ont péché. Romains 3. Tous ont péché. Donc nous avons besoin d'un acte de quoi? Un acte de grâce, n'est-ce pas? De la part de Dieu, qui nous montre le chemin par son Fils Jésus-Christ. Les deux sont impliqués. Le Père et celui qui est devenu le Fils sont impliqués dans ce processus, dans ce plan de salut. Romains 3, verset 23. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que, avez-vous déjà essayé de traverser une muraille en briques ou en béton? C'est très dur, hein? Des fois, on dit que certaines personnes vont taper avec la tête sur un muraille de béton, tellement ils sont pas dans la disposition d'entendre. Il y a une séparation de l'homme, de son Dieu, par le péché. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Mais Dieu a prévu quelque chose pour nous. Il a prévu une solution. S'il nous a donné une situation à surmonter, il nous a prévu aussi une solution. Donc, personne n'est exempt du péché, n'est-ce pas? Même si nous sommes de bonnes personnes, même si d'autres personnes se comportent avec grâce et avec justice, tout le monde qui a vécu sur la terre a péché. Chaque être humain est coupable dans un sens au péché, mais aussi au besoin de la mort de Jésus-Christ. Il est important de noter que la Bible indique clairement que le péché, aucun péché n'est acceptable. Si les conséquences peuvent varier, les conséquences spirituelles sont toujours la même. C'est une séparation éternelle de Dieu. En fait, c'est vraiment ça, la mort spirituelle, n'est-ce pas? C'est de cesser d'exister, de cesser de vivre. C'est ça, la mort spirituelle. On est déjà aux Romains, donc considérons maintenant Romains 6. Romains 6, nous venons de mentionner ça il n'y a pas longtemps, mais verset 23 maintenant. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don gratuit implique la grâce de Dieu. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est Dieu qui a choisi de nous offrir ce don, ce cadeau, si vous voulez. Est-ce que nous allons accepter ce cadeau? Est-ce que nous allons refuser ce cadeau pour choisir quelque chose qui semble plus comme tout le monde, plus comme ceux qui m'entourent, mes amis, mes copains? Non. Si nous sommes ici, nous avons choisi ce cadeau. Nous avons choisi d'accepter l'appel de Dieu et cette offre de la grâce, de nous pardonner de nos péchés, de nous admettre, si vous voulez, à ce cheminement envers la vie éternelle. Donc, la pénalité du péché en ce moment-là est enlevée si Dieu nous pardonne. Mais il faut enlever le péché aussi. Il ne faut pas simplement dire « je suis désolé, je me sens mal, mais je vais continuer comme j'étais ». Et c'est ça la différence entre, si vous voulez, de vivre la voie du péché et vivre en nouveauté de vie. Donc, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes, dans un sens, une pâte. Donc, considérons 1 Corinthiens 5. S'il y a, je vous ai mentionné l'idée d'être de la poussière, mais si on prend un petit peu d'argile et on mélange l'argile avec de l'eau, c'est un exemple pour nous qui est comparable à la pâte, n'est-ce pas? C'est un petit peu d'eau, un petit peu de farine, quelque chose qui est maillable, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on peut manipuler, d'accord? Et dans la Bible, le levain dans cette pâte, c'est le symbole du péché. 1 Corinthiens 5. Si vous voulez, vous pouvez considérer que le péché est comme un obstacle, comme ce mur en béton, un obstacle à cette transformation que Dieu voudrait de nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour aller? Il faut trouver une façon d'enlever l'obstacle. D'enlever. Et grâce à Dieu, nous pouvons surmonter, nous pouvons vaincre le péché par l'élimination du péché. Donc, 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul nous dit au verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. » Donc, en pensant à l'orgueil, hein? « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Il y a tellement de signification dans ces quelques versets ici. Mais qu'est-ce que j'ai noté quand j'ai lu ça? C'est l'idée d'être une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, renouvelée. Dans un sens, c'est Dieu qui fait possible ce renouvellement, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a offert cette façon de vivre ou de marcher en nouveauté de vie. Et l'idée, c'est de ne pas nous accrocher à quelque chose du passé, de ne pas nous accrocher à notre ancienne personne, à nos anciennes habitudes, mais d'être aussi confiant en Dieu, aussi convaincu que Dieu va pouvoir pour nous, que nous sommes en train de lâcher à toute cette sécurité que le monde peut nous offrir faussement, pour être, si vous voulez, d'entre les bras de Dieu, d'entre les bonnes mains de notre Dieu éternel. Mais il y en a qui veulent pas lâcher. Il y en a qui résistent, qui essayent de garder un petit peu de ce passé, de ces pratiques. Mais Paul nous instruit de devenir une nouvelle pâte. Et une nouvelle pâte ne va pas se gonfler avec de l'orgueil. Une nouvelle pâte n'a pas le péché, hein, le levain là-dedans. Donc, qu'est-ce que cela produit au lieu de produire ce gonflement? Cela produit la pureté et la vérité. Donc, nous allons célébrer cette fête de la des pains sans levain, non avec la malice et de la méchanceté, mais avec la pureté et la vérité. Nous sommes cette pâte. N'oublions pas cela. Dans cet exemple-là, nous sommes la pâte. Le pain est un symbole pour nous rappeler de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous sommes et de qu'est-ce qu'il faut faire pour renouveler notre personne. Donc, nous sommes appelés pour faire des préparatifs, n'est-ce pas, pour la fête des pains sans levain. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à enlever de la poussière, simplement. Nous avons parlé pas mal de la poussière, hein? Mais l'idée, c'est d'enlever le levain. Le levain. Le levain représente le péché qui se répand de manière inaperçue et incontrôlable s'il n'est pas éliminé. Donc, on peut passer du temps parce que il y a des miettes, n'est-ce pas? Il y a des miettes. Donc, il y a des gros pains. On va sortir les gros pains dans les sacs. On va sortir les choses du frigo. On va sortir des choses du congélateur qui sont levées, les produits qui contiennent de la levure, bien sûr. On va l'enlever. Mais après, on va passer du temps à chercher des choses un peu plus difficiles à trouver. Les miettes, les petites choses cachées. Mais ce n'est pas le but d'enlever la poussière. Le but, c'est de trouver le levain caché. Et c'est un peu comparable, mais je crois que c'est intentionnel, n'est-ce pas? C'est comparable à l'idée de voir facilement certains péchés que nous commettons. Il y en a qui voient même les conséquences de leurs péchés assez rapidement. Mais d'autres péchés sont peut-être plus difficiles à observer si nous sommes dans le train-train de la vie quotidienne. C'est pour ça que nous avons besoin de profiter de ces outils, de la méditation, de la prière, de l'étude. Nous avons besoin de profiter de ces outils pour améliorer notre travail à enlever le levain, le péché de nos vies. Peut-être dans notre monde actuel, nous allons entendre de temps en temps la phrase suivante. Ne vous préoccupez pas des petites choses. Ne vous préoccupez pas de petites choses. Préoccupez-vous pas de petites choses. C'est quelque chose que, quand j'étais jeune, dans les années 80-90, on en avait des tout petits livres aux États-Unis qui s'appelaient « Ne vous inquiétez pas de petites choses ». Est-ce que ça a été traduit en français? Je ne sais pas. Mais c'était tout un petit livre qui nous donnait des points à considérer sur le fait de ne pas considérer les petites choses comme importantes. Je vais vous citer un petit peu de ce livre, mais ne fions pas là-dessus. Chaque fois que nous sommes confrontés à une mauvaise nouvelle, à une personne difficile ou à une déception quelconque, la plupart d'entre nous prennent certaines habitudes, certaines façons de réagir à la vie, en particulier à l'adversité, qui ne nous servent pas très bien. Nous réagissons de manière excessive, nous démesurons les choses, nous nous accrochons trop. Et nous nous concentrons sur les aspects négatifs de la vie en petites choses. Lorsque nous sommes immobilisés par ces petites choses, lorsque nous sommes irrités, agacés, dérangés, nos réactions non seulement nous frustrent, mais nous empêchent d'obtenir ce que nous voulons. Et puis je passe un petit peu plus loin. Au bout d'un certain temps, nous commençons à croire que tout est vraiment important. Nous ne reconnaissons pas que la façon dont nous abordons nos problèmes a beaucoup à voir avec la rapidité et l'efficacité avec lesquelles nous les résolvons. Et puis, l'auteur dit, « Comme j'espère que vous le découvrirez bientôt, lorsque vous prendrez l'habitude de réagir à la vie avec plus de facilité, les problèmes qui vous paraissent insurmontables commenceront à vous sembler plus faciles à gérer, et même les gros problèmes, ceux qui sont vraiment stressants, ne vous feront plus autant dévier de votre chemin qu'auparavant. » Heureusement, il existe une autre façon d'aborder la vie, une voie plus douce, une voie plus douce, plus gracieuse, qui rend la vie facile et les personnes qui la composent plus compatibles. Cette autre façon de vivre consiste à remplacer les vieilles habitudes de réaction par de nouvelles habitudes de perspective et d'avoir une vie plus riche et plus satisfaisante. Et l'idée, c'est de ne pas considérer même les petites choses. Frères et sœurs, est-ce que c'est biblique? Frères et sœurs, ce n'est pas biblique, ça. Et c'est même écrit dans l'avant-propos de ce livre. Cette philosophie est basée sur le zen, sur les religions de l'Est. De ne pas vous inquiéter de petites choses, de vous concentrer sur les grandes choses, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est une philosophie trompeuse, qui ne nous encourage pas à considérer de petites choses, mais de les oublier, de les ignorer en disant « ça ne vaut pas le temps, ça ne vaut pas l'effort, je vais me concentrer sur d'autres grandes choses ». Mais, frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous admettre. Le royaume de Dieu est considéré ou comparé à une petite chose dans la Bible. Saviez-vous? Considérons Matthieu 13. Matthieu 13, par exemple. Jésus-Christ lui-même a utilisé de petites choses pour nous enseigner de profondes leçons. Donc, si vous n'avez pas compris, je voudrais vous dire de vous méfier de ce type de philosophie, de ne pas considérer les petites choses. Pour ça, c'est clair, n'est-ce pas? Parce que Dieu voudrait que nous considérions de petites choses. D'accord? Il ne veut pas simplement notre ignorance. Il voudrait nous enseigner en petites choses aujourd'hui qui vont devenir grandes choses dans l'avenir. D'accord? Donc, si vous n'avez pas compris, c'est ne pas suivre la philosophie du livre que je viens de citer. D'accord? On va se concentrer sur la parole, la vérité biblique maintenant, qui n'est pas la même chose. Donc, Matthieu 13, voilà, nous avons ici deux exemples très parlants de l'importance de quelque chose qui semble petit, quelque chose qui semble aux yeux de l'homme petit. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc l'idée, on ne voit même pas ce trésor. C'est quelque chose qui est caché. Mais tout d'un coup, cet homme, il le trouve. Il le trouve. Ce n'est pas facile à voir. C'est quelque chose qu'on peut-être élaborait dans ce champ, je ne sais pas. Mais il l'a trouvé dans un champ. Puis, ça continue au verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » C'est quoi la taille d'une perle? C'est comme ça, ça peut varier, mais c'est petit, n'est-ce pas? Verset 46, « Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Intéressant. Deux exemples qui nous démontrent que, peut-être en premier lieu, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est facile à voir, comme un grand panneau devant nous, mais c'est quelque chose qui est des fois caché, que Dieu révèle à certaines personnes. Et puis l'autre chose, c'est que ce petit noyau, si vous voulez, d'aujourd'hui, c'est quelque chose avec beaucoup de valeur, avec une valeur inestimable, on peut même dire. Et puis, nous avons Jésus qui a souligné l'idée de nos services, nos œuvres aussi, même de petites choses envers des autres peuvent vraiment avoir un impact. Matthieu 25 est basé là-dessus, un petit peu plus loin. Matthieu 25, nous ne sommes pas censés de servir ceux qui sont habillés comme des rois seulement, mais ceux qui sont dans le besoin. Et je ne vais pas tout lire ici, mais l'idée, c'est que nous faisons de notre mieux à servir ceux qui sont dans le besoin. Verset 38, Matthieu 25, verset 38. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Parce qu'ils ne savaient pas qui servait Dieu. Verset 39, quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, ces petites choses, à l'un de ces plus petits de mes frères. Encore une petite chose, n'est-ce pas? C'est à moi que vous les avez fait. D'accord? Donc, est-ce que Dieu considère les petites choses importantes? Oui. Oui. Malheureusement, dans notre société, nous voyons le résultat d'autres types de philosophie, d'autres types de perspectives, et bien sûr beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'orgueil, et beaucoup de personnes qui ne s'occupent pas des petits, mais qui poursuivent les richesses de ce monde. Ce n'est pas nouveau, hein, en fait, même dans un passé lointain, un tiers des gens, des anges qui avaient la gloire s'est rébellé contre Dieu. Ils étaient séduits par Lucifer, qui n'était pas satisfait avec sa position, qui voulait encore du pouvoir. Donc, Dieu se soucie de nous, des petites choses, des créatures fragiles et temporaires, de la poussière. De la poussière. Nous sommes une pâte, nous sommes de l'eau et de la poussière mélangées. Et si nous contemplons l'amour de Dieu envers nous, qui sommes tellement petits, tellement faibles, nous devrions nous rappeler que nous devrions aussi prendre soin des autres, des petits, des faibles, des fatigués, des découragés, ceux qui sont dans le besoin. Nous devrions nous rappeler que nous devons nous soucier des détails de la vie, des détails de notre marche avec Dieu. Les détails sont importants. Les détails de nos rôles de la vie, nos responsabilités sont importantes. Les détails de nos relations, les petits détails, la façon de s'interroger, la façon de se parler, la façon de faire des choses ensemble. Nos relations, les détails sont importants. Les détails de notre foi. Je crois en quoi? Quelle est ma foi? Est-ce que je peux expliquer ma foi? Est-ce que je connais les détails de ma foi? Est-ce que je connais les détails de la Bible, de l'instruction de Dieu? Est-ce que je connais les détails? Je peux vous dire que j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes, j'ai vécu dans plusieurs endroits, et souvent la réponse en concernant la religion, c'est « je suis croyant ». Mais c'est quoi le détail de ta croyance? Il n'y a pas de détail. Je suis né catholique. Oh, bravo! Désolé, je ne me moque pas des gens, mais il y a quand même un manque de détails, hein, d'adhérence personnelle, n'est-ce pas? On est obligé, n'est-ce pas, pour répondre à Dieu, s'il a fait grâce, n'est-ce pas, s'il a offert ce cheminement, notre responsabilité, c'est de poursuivre avec diligence pour chercher les détails. Et dans le même sens, dans notre service envers les autres, les petits détails sont aussi importants, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, bah, de temps en temps, je rends service. C'était quoi la dernière fois que tu as rendu service à quelqu'un? Oh, ben, j'ai fait ça et ça. Mais bon, l'idée, c'est de s'occuper des détails. Je vous ai donné plusieurs domaines, OK? Mais l'idée en général, c'est que Dieu s'occupe des détails aussi. Et il nous apprend à s'occuper des détails. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Ce n'est pas facile en tout temps, et Paul est l'un des meilleurs à nous encourager de persévérer. Paul a fait face à plusieurs défis, n'est-ce pas? Plusieurs difficultés. Même son corps était touché, son esprit, bien sûr, attaqué. Il était chassé de certaines villes, de certains endroits, naufragé, toutes sortes de souffrances. Donc, si vous voulez, il est qualifié pour nous instruire là-dessus pour la persévérance en détail. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, intéressant, on a parlé de la naissance des étoiles aujourd'hui, des ténèbres, ok, la lumière a brillé, la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça continue au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.
dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc on revient là-dessus, n'est-ce pas? Notre baptême, notre engagement, les trois jours, les trois nuits, la signification de tout ça, c'est de mourir envers le monde et de vivre en Christ. Que Christ vit en nous-mêmes. C'est ça le miracle du Saint-Esprit. Christ vit en nous. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Est-ce que nous sommes des fois comme des globules de Bock qui bloquent la lumière? Ou est-ce que nous permettons que la lumière soit transmise à travers nous? Je profite de ce point d'astrologie, d'astronomie, pour nous faire penser à notre besoin de briller, à notre besoin de ne pas empêcher la lumière de Dieu dans notre vie. Il voudrait briller par nous. Il ne veut pas trouver un tas de poussière qui bloque la lumière. Et l'idée, c'est éventuellement, la gloire nous attend. Verset 16, un peu plus loin. Christ a fait possible tout cela, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit. Hein? On ne va pas vivre éternellement physiquement, donc avec l'âge, avec les blessures, avec l'usure, ça se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce mot « renouveler » apparaît encore, n'est-ce pas, frères et sœurs? Le renouvellement. C'est ça l'idée, une nouvelle patte qui n'a pas de péché, qui n'a pas de levure. Versets 17 et 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Saviez-vous que certaines choses pour les astronomes ne sont pas visibles à l'œil? Ils sont obligés de faire des images qui profitent d'autres spectres, n'est-ce pas? Que ce soit le rayon X, l'ultraviolet, l'infrarouge. Donc, certaines choses qui sont des choses magnifiques de notre univers ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est comparable à ce que nous observons de la gloire de Dieu. Pour le moment, mais pas pour toujours. Donc, notre préparation pour la Pâque et la fête des pains sans levain, nous devons nous engager dans un processus de purification spirituelle qui, en fait, est symbolisé par l'élimination du levain de nos demeures et puis qui reflète l'élimination du péché de nos vies. Donc, nous avons cette tâche devant nous d'enlever le péché, de devenir une pâte nouvelle, de s'humilier devant Dieu, de se soumettre à son instruction, de ne pas être gonflé, de ne pas être orgueilleux en disant « Moi, je choisis ma voie à moi. » Non, ce n'est pas une attitude qui correspond à l'humilité que Dieu attend de nous. Donc, nous confessons nos péchés envers Dieu et il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Nous devons nous repentir. Et si nous nous repentons, l'idée c'est de changer de direction, de partir dans le bon sens. La repentance est une étape essentielle pour la préparation de la Pâque. Nous sommes censés de nous préparer en considérant l'exemple ultime de Jésus-Christ. Donc, notre pensée, nos actions, tout ça, c'est à analyser. C'est à analyser dans cette période. Nous passons en réflexion auto-examen. C'est ce que nous appelons notre réflexion. C'est un auto-examen afin d'agir. On est déjà aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens 10, je profite d'être là. 2 Corinthiens chapitre 10, nous avons ce rappel ici. C'est un rappel pour nous de se concentrer sur cette espérance que Dieu agit et que nous, notre réponse, c'est d'agir avec cette préparation. Donc, 2 Corinthiens chapitre 10, et verset 15, « Nous ne nous glorifions pas de travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Donc le point important ici, c'est de ne pas se glorifier nous-mêmes. Ce n'est pas notre gloire, mais l'idée, c'est de trouver la gloire dans le Seigneur. Donc, c'est un appel à l'humilité. Bien que nous soyons de la poussière, fragile, temporaire, nous ne sommes pas abandonnés par Dieu. Son plan, c'est de nous transformer de la poussière à la gloire, mais avec son temps, avec son plan parfait du salut. Donc le sacrifice de Jésus-Christ rend tout cela possible, et puis nous serons un jour transformés à son retour. Nous pensons à ces choses, nous pensons à la fin, tout en préparant pour la première étape de ce cycle annuel des fêtes de l'Éternel. Au retour de Christ, nos corps qui sont maintenant fabriqués de poussière, seront transformés en gloire. Et alors, nous allons pouvoir resplendir dans l'avenir. Nous allons parler plus, pendant la fête des pains sans levain, du fait que c'est Christ, le pain de vie. Donc, on va en parler davantage. Mais pour aujourd'hui, je voudrais juste nous concentrer sur notre préparation. Purifions nos cœurs, pour devenir des instruments, des vases d'honneur, des pots, des outils qui peuvent servir Dieu. Ensuite, Dieu achèvera son plan. Il va nous transformer de poussière en gloire. Donc, avec cette nouvelle perspective ancrée en nous, nous comprendrons mieux comment aimer Dieu comme Dieu nous aime. Alors, préparons pour la Pâque, préparons pour la fête des pains sans levain, en sachant que même si nous ne sommes que la poussière, Dieu a prévu quelque chose très, très important, très grand pour nous, pour ceux qui obéissent à ses commandements.